Donc nous allons dans la prophétie d'Agée. Et ce matin, nous allons regarder la troisième prophétie d'Agée, l'avant-dernière. Et donc nous commençons Commençons la lecture au verset 10 du chapitre 2. Et nous irons jusqu'au verset 19. Donc Agée, chapitre 2, verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit: si quelqu'un, souillé par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit: tel est ce peuple, telle est cette maison devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Voici donc la parole de Dieu à travers ce petit prophète âgé. Alors on va reprendre un petit peu le contexte. Nous sommes à Jérusalem. Les murs de la ville sont toujours en ruine. Et ça, c'est une chose importante à l'époque. Depuis un peu moins de 20 ans, un petit groupe de captifs, ceux qui étaient emmenés à Babylone, un petit groupe est revenu. Un décret du roi les accompagnait et leur ordonnait de reconstruire le temple. Et ces gens ont commencé le travail, ils l'ont fait dans le bon ordre. C'est quelque chose à remarquer, à noter. Ils ont commencé par relever l'autel de l'Éternel. On ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut rien faire devant Dieu si ce n'est pas à travers un sacrifice. Donc ils ont relevé l'autel de l'Éternel. Ils ont aussi commencé à poser les fondements du temple. On ne voit rien dans tout ce temps-là au sujet des murs de la ville. Ils ont commencé à poser les fondements du temple. Et c'est alors que, on l'a vu les deux dernières fois, qu'ils ont rencontré des difficultés et l'œuvre s'est arrêtée. Cyrus, le roi qui avait donné le décret ordonnant la reconstruction du temple, Cyrus était mort, il y avait d'autres rois, et un notamment qui a publié un autre décret qui interdisait ou qui demandait à ce que l'œuvre s'arrête. Et ainsi va la vie des hommes, et bien insensé est celui qui s'appuie sur une créature aussi éphémère. On a vu ça tout à l'heure. N'est-ce pas, d'une certaine manière. L'homme n'est pas stable du tout dans ses voies. Et si on met son espoir dans un homme, on sera très très vite déçu. Et voilà 14 années qui passent, pendant lesquelles le cœur du peuple se refroidit. Le meilleur cœur se refroidit toujours s'il ne tire pas sa vie continuellement du Seigneur. Donc voilà un petit peu l'arrière-plan. On l'a déjà mentionné, mais il est bon d'y revenir. Puis Dieu suscite un prophète, Agé, et il réveille l'esprit de son peuple pour écouter sa parole et pour obéir à la parole de Dieu. Et nous arrivons maintenant au troisième message que Dieu adresse au reste, à ceux qui sont revenus, par l'entremise de ce Agé. Alors, 4 mois se sont écoulés depuis le premier message et un peu plus de 3 mois depuis le début des travaux. 1 mois avant cette troisième prophétie d'Agé, Dieu a envoyé un autre prophète, Zacharie, pour parler à ce peuple. Donc, vous voyez un peu la chronologie. Là. Les deux sont à Jérusalem et parlent pratiquement en même temps, parce qu'ils se connaissent très probablement. Quelques remarques. L'œuvre de salut, l'œuvre de la construction du temple saint de l'Éternel, c'est-à-dire aujourd'hui l'Église, qui est parfaite, sans tache ni ride, cette œuvre, en fait, est l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'il vise et c'est ce à quoi il est engagé depuis le commencement. Et cela pour la gloire de son Fils. Quand Dieu a créé cette création, cet univers, il l'a fait pour la gloire de son Fils. Mais déjà, il vise le but d'une église, d'un peuple pour sa Fils, parce que c'est ainsi qu'il veut révéler la gloire de ce Fils. C'est très important de garder cette dimension à l'esprit. Donc Dieu appelle, Dieu aime, Dieu choisit une église, et ça depuis le début. L'homme n'est impliqué dans cette œuvre de salut que parce que Dieu l'a décidé, et non pas parce que Dieu en a besoin. Alors, pourquoi souligner ça? Eh bien, parce qu'on ira dans peut-être, je ne sais pas, 95% des lieux de culte aujourd'hui, malheureusement, peut-être même plus, je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas le message qu'on va entendre. Et en quelque sorte, on invite les gens à faire une fleur à Dieu en considérant sa parole, ou peut-être en écoutant sa voix. C'est ainsi qu'on va glorifier le Seigneur. Non, 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 non. Dieu se glorifie par lui-même. Il est rempli de gloire. Donc, faisons attention de ne jamais penser qu'on est au centre de cette œuvre. Non. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour faire quoi que ce soit. S'il utilise un homme comme Agé, par exemple, c'est parce qu'il l'a décidé. Il l'a décidé. Dieu parle par lui-même. Une autre remarque. Dans sa première prophétie, Agé, c'est-à-dire Dieu, commence en disant « Ce peuple dit ». Et on a cette parole qui vient du peuple. Dans la deuxième prophétie, il aborde un problème qui trottait dans la tête des ouvriers du temple à cause de quelque chose que les anciens avaient dit. Vous vous rappelez? Et il sera clair dans un moment que dans cette troisième prophétie, Dieu répond à des pensées et des idées qui se sont logées dans l'esprit des Juifs. Quelle est la remarque? La remarque, c'est attention, Dieu écoute et Dieu entend. En fait, c'est une des preuves qu'il avance dans les prophéties d'Ésaïe, par exemple, pour montrer qu'il est Dieu. Il parle, il entend et il écoute. Et rien ne lui est caché. Ce n'est pas donc, pourtant, ce n'est pas une invitation à veiller sur soi. Vous savez, quand on est avec certaines personnes, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à la manière dont on se comporte. Alors, ce n'est pas ça. Parce que qui est-ce qui peut veiller sur ses pensées? Non. Elles sont là avant qu'on les pense, en quelque sorte. Donc, ça n'est pas de veiller sur soi et de vivre un peu une vie qui n'est pas la vie réelle. Non, c'est une exhortation à amener nos pensées à Dieu, à savoir que Dieu est présent, qu'il est réel. Et il entend et il voit. Et donc, c'est important de jouer ouvertement avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un genre de figment de notre imagination, une sorte d'invention que l'homme a fait, comme nous disent les philosophes, et qui peut lui donner quelques réconforts. Non. Dieu existe. Il est là et il entend. Et donc, la sagesse veut qu'on prenne en compte celui qui est là, celui qui est réel, celui qui entend. Donc, c'est une chose qu'il nous faut souligner. Il nous faut reconnaître que nous avons tous tendance à cacher quelque chose, à paraître mieux qu'on se sait en vérité. Alors, quand nous, on était gamins, je sais que ça ne se fait plus maintenant, mais le dimanche, on allait dans un lieu de culte, mais il fallait s'endimancher. On ne pouvait pas prendre les mêmes vêtements que pendant la semaine. Parce qu'on ne pouvait pas se présenter devant cette divinité comme on était. Bon. On a tendance à cacher. Et ça, c'est une attitude insensée devant Dieu parce que Dieu est réel. Au contraire, il faut en quelque sorte ôter toutes ces choses ou ne pas en tenir compte et venir à lui tel qu'on est, tel que je suis. Et c'est ainsi que sa grâce touche. Donc, voilà un peu quelques remarques que je voulais aborder avant d'entrer dans le texte lui-même. Maintenant, nous allons voir trois choses, les questions, des illustrations et, comment est-ce que j'ai intitulé ça, des leçons. Vous allez voir, ça se tient. Donc, premier point, des questions. Des questions. Dans cette troisième prophétie, Dieu envoie son prophète vers les sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs en Israël, à cette époque-là, c'est un peu ce qu'on appellerait plus tard les scribes. Il y en avait qui étaient pharisiens, d'autres qui n'étaient pas. Mais c'est ceux qui ont la fonction de connaître, ceux qui comprennent, ceux qui ont pour fonction de donner la bonne interprétation de la loi de Dieu. Et par exemple, on pense à celui qui est venu voir Jésus la nuit, Nicodème, et quand Jésus lui parle de certaines choses, Nicodème est complètement renversé, ne comprend pas, et Jésus lui dit, comment tu es le docteur en Israël, tu es là, il dirait un sacrificateur, et tu ne sais pas ces choses? Normalement, tu devrais les savoir. Oui. Donc, Dieu envoie son prophète vers ces gens-là, parce que ces gens-là, quand il y a une question sur la loi de Dieu, c'est eux qui interprètent. Eux qui interprètent. Et avant d'être un code écrit, la loi de Dieu est l'expression de sa volonté parfaite pour la créature qu'il a faite à son image, comme on a vu tout de suite dans la première partie du culte. Dieu veut certaines choses pour la créature qu'il a créée, et sa loi n'est que simplement la révélation écrite de cette réalité. Et ces sacrificateurs passent leur temps à essayer de comprendre cette loi et de l'interpréter. C'est pourquoi la loi de Dieu n'est jamais caduque. Elle n'est jamais passée de mode. Elle n'a jamais passé sa date de péremption. Pourquoi ? Parce que c'est l'expression de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne change pas. C'est pourquoi aussi, aucun homme ne peut accomplir la loi à la satisfaction de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme est tombé dans la rébellion, dans la désobéissance, et il ne peut pas. Comment est-ce que ce qui est imparfait pourrait faire ce qui est parfait ? Parce que cette volonté est parfaite. Et donc, nous voyons que la loi, en fait, ne peut pas sauver un homme. Et c'est là toute la nécessité absolue du Seigneur Jésus-Christ. Si un homme, quel qu'il soit, un être humain peut accomplir toute la volonté parfaite de Dieu, il n'y a pas besoin de Jésus-Christ. Il est parfait et il a obéi parfaitement à la loi de son père. Et il l'a fait, non pas pour lui-même, parce qu'il n'avait pas besoin de le faire, mais il l'a fait à la place de son peuple, à la place de ceux qui lui ont été donnés. Et de telle manière que ce peuple est maintenant libéré de la condamnation et de la malédiction de la loi. Ça, c'est l'Évangile. Et on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. En fait, il n'y a aucune page de la parole de Dieu sans cet Évangile. Il l'a fait et donc le peuple est libre. Christ a accompli toute la loi dans ses exigences et il a subi le châtiment encouru par la transgression de la loi. Et maintenant, Dieu n'a plus de controverse avec celui qui est en Christ. Christ est le grand souverain sacrificateur, duquel tout autre sacrificateur n'est qu'une ombre. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, quand il passait derrière le voile avec le sang de l'animal qui a été sacrifié, qu'il faisait l'aspersion sur le propitiatoire et tout ça, ça n'était en fait qu'une indication. Il pointait vers celui qui serait le vrai sacrificateur, qui serait aussi le sacrifice et le temple et tout. Il n'était qu'une ombre. Lui, il est donc parfaitement habilité pour connaître, pour comprendre et donner la bonne interprétation de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on étudie sa parole. Nous ne venons pas, on vient plus vers un homme, comme au temps d'Israël, le juif qui avait besoin de comprendre quelque chose, il venait vers le sacrificateur. On ne vient plus vers un homme de cette manière-là, mais on vient vers l'homme, grand H, celui qui a tout fait. Et quand on veut comprendre la parole de Dieu, on cherche ce qu'elle dit de Christ. Par exemple, on regarde Agée. Il y a tout un arrière-plan, comme on a vu, toutes ces trois fois et tout ça. Ça, c'est intéressant. C'est aussi nécessaire pour comprendre un peu la situation et le message d'Agée, mais c'est secondaire. On n'est pas là pour apprendre l'histoire, l'histoire sainte. Quand j'étais jeune, parce que j'étais dans une école particulière, il fallait qu'on étudie l'histoire sainte. Ben, ça ne faisait aucun lien avec le saint, celui qui est saint. Donc, on va vers l'homme. Et si un homme se lève pour interpréter la parole de Dieu et qu'il ne mène pas vers Christ, à Christ, alors il ne faut pas l'écouter, tout simplement. Et il peut parler très bien, il peut être très érudit, tout ça. Mais si ça ne va pas vers Christ, si ça ne mène pas à Christ, ça n'est pas la prédication de l'Évangile. Donc Dieu envoie son prophète vers les sacrificateurs et il lui donne mission de poser deux questions. On va les examiner dans un instant. Mais avant ça, je me demande si vous avez jamais remarqué combien de questions Dieu pose dans sa parole. Combien de fois il pose les questions? C'est une petite étude qui est sympathique à faire. Et ça revient continuellement. Alors, ce n'est pas que Dieu a besoin d'apprendre, parce que sa parole est une révélation. Mais en fait, c'est qu'il veut révéler quand il pose des questions. Et là, il va révéler quelque chose. Mais ça m'a fait réfléchir. Je vois combien peu nous posons de questions. Et là encore, ça vaut le coup des fois de penser un petit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On fait dérouler le film de la journée, on s'aperçoit qu'on a posé très peu de questions. Très peu de questions. On a plutôt tendance à faire des déclarations. Surtout, il faut le dire, parmi les milieux religieux, et même on pourrait dire évangéliques, on fait des déclarations. Faites le test si vous êtes sur un réseau social, n'est-ce pas? Vous allez voir, quelqu'un va lancer une idée et alors, tout de suite, il va y avoir des experts qui vont nous donner toutes leurs déclarations, ce qu'ils pensent et tout ça. Ils n'écoutent même pas ce que les autres disent d'ailleurs. C'est intéressant. Or, celui qui déclare Il montre qu'il pense savoir. Il se place au-dessus des autres. Et en revanche, celui qui pose des questions indique qu'il a conscience de ne pas tout savoir. Il montre qu'il a le désir d'apprendre. Alors, quand Dieu pose des questions, ça n'est pas cela. C'est qu'il veut révéler. Il veut enseigner. Et donc, c'est à nous d'écouter. Donc, et aussi, simplement une petite parenthèse, poser des questions, c'est une bonne manière d'orienter la réflexion et les pensées. Et c'est pourquoi Dieu emploie ce procédé. Il révèle. On va dans le premier chapitre. Est-ce le temps pour vous de bâtir vous? Vous voyez, tout de suite, il met les Juifs face à l'illogisme de leurs pensées, de leurs actions. Si ça n'est pas le temps, est-ce le temps pour vous? Vous voyez, il y a une manière de diriger la pensée là. Et c'est ce que Dieu fait. Mais les questions qu'il envoie son prophète posé sont aussi des illustrations. Et c'est notre deuxième point, des illustrations. Parce que Dieu envoie son prophète vers les sacrificateurs avec ces deux questions, et ces deux questions sont en fait des illustrations. L'illustration, c'est un moyen de voir une vérité. Elle permet de saisir de manière concrète ce qui est abstrait. Et ici, Dieu envoie Agé avec sa première question illustration, on pourra dire. Alors, tout de suite, on voit de quoi il s'agit. Voilà un monsieur, c'est quelqu'un, dit Agé. Il a un long manteau, une sorte de cape, en quelque sorte. Et il s'enveloppe dans cette cape, dans ce genre de tissu. Et dans les plis de ce manteau, il porte de la chair consacrée. Pourquoi ? C'est ainsi. Alors, cela signifie en fait qu'il porte un morceau de viande qui a servi dans un sacrifice. La viande a été mise à part pour une offrande à Dieu. Et le monsieur la porte. Elle est consacrée, elle est sainte, mise à part. Et voilà que notre monsieur, ou plutôt son manteau, entouré autour de la chair consacrée, touche quelque chose d'autre. Donc on voit la chose, n'est-ce pas? On voit clairement la situation parce que c'est une illustration. C'est une illustration. Maintenant, voilà la question. Ce qui est touché par cette chose sainte, cette chair consacrée, est-ce que cela devient saint? Est-ce que ce qui a été touché devient-il saint? Y a-t-il, si on peut dire d'une autre manière, un transfert de vertu? Alors, les sacrificateurs répondent très clairement « Non, non !» Et ils ont raison, ils ont raison. La vertu n'est pas dans la viande qui a été mise à part, mais dans l'intention de celui qui a ordonné qu'elle soit mise à part. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a la vertu, ce n'est pas la viande du sacrifice, pas du tout. Donc la vertu n'est pas là. Et si on veut une autre illustration qui nous permet de voir cela peut-être un peu plus clairement, les ustensiles dans le temple, qui étaient utilisés dans le temple pour le culte, ils n'étaient pas saints en eux-mêmes. C'était des ustensiles comme n'importe quel ustensile. Non, mais ils étaient saints simplement en vertu du service pour lequel ils avaient été mis à part. Saint veut dire mettre à part. C'est-à-dire un service que Dieu, le Dieu saint, exigeait. Vous voyez, l'ustensile n'est pas saint en lui-même. La chair consacrée n'est pas sainte en elle-même, elle n'a pas de vertu. Et donc les sacrificateurs disent non. Et de même, le croyant n'est pas saint en lui-même, mais dans la mesure où il accomplit le service de Dieu, qui est de se conformer toujours davantage à l'image de Christ. Et c'est pour cela qu'il faut que Dieu le mette à part. Et lui, ensuite, mis à part, saint, en vertu de ce que Dieu a fait pour lui, il se sanctifie, c'est-à-dire qu'il vit la vie, il est ce qu'il est, il vit ce qu'il est. Et c'est pour cela que Dieu l'a mis à part, pour être semblable à l'image de son Fils. Mais en lui-même, il n'a pas de vertu, de la même manière que cette viande. Ok, ça c'est la première question-illustration. Est-ce qu'il y a transfert de vertu? Non. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vertu au départ. Deuxième question-illustration. Voici un autre quelqu'un, nous dit Agé, et d'une manière ou d'une autre, ce monsieur est entré en contact avec une chose souillée. Il est entré en contact avec un cadavre. Alors, un cadavre, c'est quelque chose de souillé. Pourquoi? Parce que le principe qui agit dans un cadavre, c'est la corruption. N'est-ce pas? On se souvient tout de suite des propos de Marthe à l'adresse du Seigneur concernant son frère qui est mort depuis 4 jours. Et il sent, parce que tout ce qu'un cadavre peut faire, tout ce que la mort peut faire, c'est se corrompre. On voit ça. On a sorti les plantes à la fin de l'hiver, et parce qu'on n'a peut-être pas fait exactement tout ce qu'il fallait. Alors, voilà une plante qui a l'air toute sèche. Mais je regardais encore ce matin, il y a des pousses hein, qui repartent, mais alors, dru, justement. Et l'autre plante qui a l'air tout aussi morte que la première, eh bien, elle reste comme ça, elle reste morte. Pourquoi? Parce qu'il y a la corruption. Et bientôt, il va falloir balancer, parce que les feuilles tombent et tout ça. Voilà, donc vous voyez, la corruption œuvre dans la chose morte, dans le cadavre, et voilà que ce monsieur a été en contact avec une chose souillée. Question. Si ce monsieur, souillé, parce qu'il a touché une chose souillée, touche une autre de ces choses dont on a parlé, hein, toute l'énumération, qu'est-ce qui se passe? Ces choses deviennent-elles souillées? Et les sacrificateurs répondent, oui, elles sont souillées. Et ils ont raison. Et donc on a deux principes ici, et c'est ce que Dieu veut faire ressortir. La vertu, sainteté, ne se transmet pas. La souillure, la corruption, se transmet. Et le prophète part de là pour enseigner son peuple. Donc vous voyez, c'est simple, on a deux questions qui sont des illustrations et maintenant il va donner des leçons. Et donc c'est notre troisième point. Et dans le troisième point, on a trois sous-points. Alors, les termes d'Agé souvent paraissent un peu abstrus, un peu difficiles à saisir, mais c'est exactement ça. Alors, Agé part de ces deux questions, de ces deux illustrations pour enseigner des leçons au peuple de Dieu. Dieu voit dans le cœur et rien n'est caché devant lui, comme on a dit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une chose objective et une pensée subjective. Et nous, voilà, nous entrons dans ce premier sous-point. Tel est ce peuple, dit Dieu. Tel est ce peuple. Les hommes, tout être humain, sait que le fondement de son être est souillé. Il n'est pas ce qu'il doit être. Tout être humain le sait, il n'y a pas besoin d'enseigner la chose. Alors, il est vrai que l'être humain refuse d'admettre la chose. Il cherche à l'oublier. Il s'efforce de réprimer cette connaissance, mais il sait. Il sait. Et il n'y a pas d'autre explication. Par exemple, au culte insensé qu'on voit l'être humain porter aujourd'hui à des divertissements qui sont ridicules et qu'on voit partout. En fait, l'homme cherche à oublier qu'il n'est pas ce qu'il doit être. Et quand on regarde les divertissements, les occupations de l'homme, aujourd'hui, il me semble que c'est assez clair, on n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un qui est doué de raison peut faire ces choses? Eh bien, c'est simplement parce qu'il veut réprimer cette connaissance. Et quand on va dans Romains 1, on a l'explication. Alors, très clair, là, n'est-ce pas? Donc, il veut réprimer. Et d'une manière ou d'une autre, l'être humain, donc, se sait souillé. Et cette pensée touche toujours celui ou celle dont Dieu a régénéré le cœur. Car ce croyant, cette personne qui est née de nouveau, donc qui a fait l'objet de cette œuvre de vie par Dieu, sait qu'il n'est pas ce qu'il doit être non plus. il vit encore dans la chair. Alors, la vie nouvelle, c'est une vie transformée et elle doit se manifester d'une manière différente, mais elle n'est pas parfaite parce qu'elle se vit dans la chair. Et c'est pour ça qu'il y a cette dépendance continuelle au Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ce cœur se dit quand sa chair réfléchit? Qu'est-ce que le croyant se dit quand il pense comme un incroyant, comme il pense comme un homme, par exemple? Eh bien, tout simplement que ce qu'il va apporter à Dieu le sanctifie, lui donne quelque chose de mieux, quelque chose qui lui permet de se rapprocher de Dieu, quelque chose qui lui ôte sa souillure, ou qui tout au moins l'atténue. Et on connaît tous cela, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, quand on réfléchit en dehors du principe de la Bible, on pense que quelque chose qu'on peut faire va mettre Dieu plus en faveur par rapport à nous. Peut-être c'est un peu difficile à saisir, mais le contraire se saisit très bien. Parce que par exemple, si on fait quelque chose de mal, on a du mal à penser que Dieu nous aime. N'est-ce pas? On a du mal à penser qu'on est dans le même statut envers Dieu. C'est très très difficile. C'est pour ça qu'on a du mal à venir à Dieu. Voyez? Eh bien, c'est exactement ça. Il pense que cette chose-là le sanctifie. Et ça, c'est la religion de l'homme. Et c'est un grand malheur pour le croyant. Vous êtes de nature humaine, vous pensez naturellement que ce que vous offrez à Dieu vous vaut l'acceptation auprès de lui. Parce que parmi les hommes, c'est ainsi que ça marche. Si je donne quelque chose à quelqu'un, il est en compte avec moi. Et cette personne le sent tout de suite. Et il est même possible que ce qu'on amène à Dieu soit bon, mais la vertu ne se transmet pas. Ici, le peuple est en train de construire le temple. Le peuple a eu le cœur réveillé. Mais ce n'est pas ça qui l'amène proche de Dieu. La vertu ne se transmet pas. Deuxième sous-point. Ce qu'il m'offre est souillé. Et donc la chose va plus loin. Ce que l'homme apporte à Dieu, même si cela est saint, ne peut pas communiquer cette sainteté à celui qui offre le sacrifice. C'est ce que nous venons de voir. Il est donc vain de se reposer en quoi que ce soit qui vienne de l'homme pour obtenir l'acceptation auprès de Dieu. Et ça, c'est malheureusement la religion de l'homme. Mais pire encore, comme les questions du prophète et les réponses des sacrificateurs ont montré, si la vertu ne se communique pas, la souillure du cœur de l'homme, elle se transmet à ce qu'il apporte à Dieu. Ce qui est souillé et qui touche devient souillé. La chose peut être très bonne, c'est-à-dire le sacrifice, ce qu'on fait, ce qu'on apporte à Dieu peut être très bon, mais ce sont des mains souillées qui l'apportent. Parce que là, on ne fonctionne pas d'une manière centrée sur Christ. On ne s'en remet pas à la vertu de Christ. C'est la seule qui se transmet. Ce sont des mains souillées qui apportent la chose, même si elle est bonne, auprès de Dieu. Et nous le voyons dans la pratique. Le cœur fait le bien, mais jamais pour les bonnes motivations, d'une manière charnelle. Par exemple, telle personne du monde va être un philanthrope, c'est ça, philanthrope? Oui. Il va donner des millions à des charités, des choses comme ça, mais il ne le fait jamais pour des bonnes motivations. Parce que quelque part, au fond de son cœur, il pense que ça le met dans un meilleur statut. Et bien entendu, ça détruit même toute l'œuvre qu'il a faite, parce que ça amène quelque chose. Ça n'est pas une action altruiste, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a la pensée qu'il va gagner quelque chose. Son ciel, son statut devant Dieu, ou quoi que ce soit. Et cela touche même les croyants. C'est pour ça qu'il faut le soulever. Et ici, nous parlons du peuple de Dieu en âgé. Ce qu'il m'offre est souillé. Donc vous voyez, c'est la corruption se transmet. Troisième sous-point. Je répandrai ma bénédiction. C'est ce que Dieu dit. Parce que où est la solution alors? Ce que j'offre, même bon, ne peut pas m'aider. Mais au contraire, tout ce que je touche est entaché de mon mal et en fait est souillé. Le fait que je ne suis pas parfait enlève la perfection de quoi que ce soit que je puisse faire. Même s'il n'y a jamais eu. Comment est-ce que je vais résoudre mon dilemme? Et Dieu répond en disant, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que je fais. C'est ce que Dieu fait à cette époque-là, à l'époque de Christ, et depuis, et à tout moment, qui compte. Et il les invite, il invite son peuple à réfléchir à leur situation et à en tirer des conclusions. Sans cesse dans Agée, on le verra encore la prochaine fois, sans cesse dans Agée, Dieu amène son peuple et demande à son peuple d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe, de regarder la réalité de la situation. Parce qu'on a tendance à vivre un peu des illusions, en quelque sorte, ou à colorer la réalité avec notre interprétation. Vous étiez rebelles de manière invétérée, même dans le bon temple, le grand temple de Salomon, il y avait abomination. Il y avait des tas de choses sur toutes les collines. Il y avait un culte à des idoles. Vous étiez rebelles de manière invétérée, vous, peuple de Dieu, et vous avez été déportés. Là encore, c'est une marque de la grâce de Dieu. On pourra voir ça une autre fois. Mais Dieu continue en disant, « Je vous ai ramené. C'est moi qui l'ai fait. » Et même pour que eux reviennent de Babylone à Jérusalem, il a fallu qu'ils réveillent leur cœur. Ce ne sont pas tous les Juifs qui étaient à Babylone qui sont revenus. Il n'y avait qu'un tout petit nombre. C'est ceux du cœur desquels Dieu a réveillé. Ce n'est pas tout à fait juste, mais il a réveillé leur cœur et c'est pour ça qu'ils sont revenus. Vous voyez. Je vous ai ramené, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, votre cœur est retourné à son aise. La maison de l'Éternel avait moins d'importance que le superflu de vos maisons. Vous vous rappelez ce premier message, hein, les lambris des maisons. Mais ce n'était pas le temps pour cette ruine de la maison de l'Éternel. Et quel était le résultat à cette époque-là? Et c'est, si vous regardez dans ce passage, que s'est-il passé depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, hein? Quel était le résultat? Bien que vous offriez le sacrifice matin et soir, tous les jours de l'année, c'est-à-dire malgré le fait que vous faisiez ce qui était requis dans la loi de Dieu, eh bien, c'était rien du tout. Ce sacrifice ne vous servait à rien. Et votre cœur rebelle causait ma colère. Et c'est là que Dieu montre qu'en fait, quand ils venaient, ils espéraient trouver une abondance, mais il n'y avait qu'un tout petit peu. Vous vous rappelez cette image de la première prophétie, hein, le salaire de l'ouvrier tombait dans un sac percé. Il n'y avait pas le compte. Alors, ça n'était pas simplement une infortune, vous vous rappelez, on l'a vu, c'est que Dieu soufflait dessus. Ils étaient l'objet de la colère de Dieu, pas d'une manière totale, mais dans sa grâce, il était en colère avec eux, parce qu'il ne voulait pas qu'ils vivent de cette manière-là. Et Dieu leur dit, examinez bien ce qui se passe depuis que j'ai réveillé votre esprit. Depuis que Agée est venu, mon action a renouvelé un nouveau zèle en vous. Ça n'est pas que un jour vous êtes réveillé, vous dites, quand même, je ne devrais pas vivre comme ça. Non, c'est Dieu qui fait quelque chose et le peuple change. Et on se rappelle que Agée a prophétisé et 3 semaines plus tard, le travail recommençait sur le temple. Probablement le temps d'aller chercher le bois et toutes ces choses-là. Mon action a renouvelé un nouveau zèle en vous. Et le découragement vous a quitté. La situation était toujours la même. Elle n'avait pas changé. Avant la première prophétie d'Agée et après la première prophétie d'Agée, la situation était la même. Qu'est-ce qui a changé? Dieu a réveillé le cœur. Et donc, un nouveau courage est venu là. Et le découragement vous a quitté. Maintenant, vous bâtissez. Mais ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que je fais qui compte. Vous voyez? Parce que cette maison-là, elle ne semble pas grand-chose. Vous êtes rempli de doutes parce qu'il y en a certains qui ont dit « Ah non, c'était mieux avant ». On a tendance à penser ça, n'est-ce pas? Eh bien non, parce qu'à partir de cette maison, Dieu va faire quelque chose. Et donc, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que je fais. Je vous ai ramené, j'ai réveillé votre esprit, et maintenant vous construisez. Ce n'est pas vous qui construisez, c'est moi qui vous ai amené à construire. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Et ça, c'est la vraie religion. La vraie religion. Pourquoi est-ce que je vis devant le Seigneur? Bien, c'est parce qu'il a mis sa nouvelle vie en moi. Il a mis une vie nouvelle, une vie divine, en quelque sorte, en moi. Sinon, ce n'est pas possible de vivre. On peut faire la religion, on peut faire toute la routine, mais le cœur n'est pas dedans. Et vous le savez. Vous le savez. Donc, non pas ce que je fais, mais non pas ce que vous faites, mais ce que je fais. Un dernier point, parce que Dieu n'en a pas fini là, parce qu'il y a une question, il y a quelque chose qui frappe les yeux des Juifs de cette époque. Et c'est « mais », vous voyez, parce que rien n'a changé en fait, parce qu'il y avait un grand « mais ». Dans beaucoup d'aspects, les choses n'avaient pas beaucoup changé. Regardez verset 19. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Ils ont commencé à faire reprendre la construction du temple et tout ça, mais c'est toujours la disette. C'est toujours les petites choses. Et c'est la question qui se pose à ces gens. La situation n'a pas beaucoup amélioré. Les greniers sont toujours vides. Et Dieu leur dit, mais bien sûr, pourquoi? Ce n'est pas encore la saison. Ce n'est pas encore la saison. Si le grenier est encore vide, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu la récolte. Mais elle vient. La récolte ne se fait pas en hiver, vous voyez. Et il y a le temps. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Tout simplement que la chose n'est pas humaine. Parmi les hommes, vous faites un travail. Puis vous allez voir le patron et vous pouvez exiger un salaire. Ou si on le prend d'une autre manière, ce n'est peut-être pas exactement ce qui se passe, mais si vous faites un travail, vous envoyez une facture et vous attendez un paiement. S'il n'y a pas de paiement, il y a des pénalités, n'est-ce pas? C'est ça. Alors ça, c'est parmi les hommes. Mais dans le salut, ce n'est pas ce principe. Pas ce principe du tout. Tout est grâce. Vous avez agi. Vous avez accompli une œuvre, mais la force, l'énergie, la vertu ne vient pas de vous. Quelqu'un va dire, mais quand même, j'ai cru à l'Évangile. Oh, vraiment? Oui, oui, j'ai cru. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous n'avez pas cru avant, 5 minutes avant, par exemple? Ah, oh, je ne pouvais pas. Donc l'œuvre ne vient pas de vous. Elle vient de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ma vie en vous. Il n'y a donc pas de salaire. Mais ne vous appuyez pas sur ce que vous avez fait pour obtenir la bénédiction, mais plutôt sur qui je suis. Et regardez comment, comment Dieu termine cette prophétie. « Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » C'est plutôt qui je suis. « J'ai promis, dit Dieu, et je suis fidèle. » Les greniers sont toujours vides. Mais ils seront remplis. Le temple, là, il est petit. Et aucun temple ne peut véritablement apporter la libération. Aucun bâtiment ne peut contenir Dieu. Ça n'est pas possible. Non. Mais Dieu va faire quelque chose dont l'image est ce temple. Et on l'a déjà vu la dernière fois. Et c'est en fait ce qu'il fait. Il a promis, il est fidèle. Depuis l'éternité, il a promis. Et même quand le premier couple est tombé dans le péché, il vient avec une promesse. Et ce n'est pas la promesse qu'il va falloir que vous vous leviez, que vous fassiez le ménage et tout, remettre les choses en place. C'est impossible, parce que le péché est intervenu. Mais c'est « je ferai certaines choses, je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et l'ennemi. Je. Et en fait, la Bible, c'est la révélation de Dieu à la première personne. Il œuvre. Il est fidèle. La bénédiction viendra en son temps. En son temps. Ne portez pas les regards sur cette bénédiction alors que vous bâtissez. Mais regardez vers moi, car dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Déjà dans le cœur, il y a quelque chose de différent qu'avant chez ces bâtisseurs. Pourquoi ? Parce que Dieu a réveillé leur esprit. Et aujourd'hui, on peut, par exemple, venir auprès de Dieu, lui demander quelque chose, mais ça ne vient pas. Et on va se décourager. Mais qu'est-ce que je fais qui ne va pas ? Ça n'est pas la question. Ça n'est pas le temps de Dieu. Alors, est-ce que Dieu va le faire ? Ou est-ce que Dieu ne va pas le faire ? Est-ce que peut-être je prie pour quelque chose qui n'est pas sa volonté ? C'est tout à fait possible. Mais c'est pour ça que je ne pose pas tout mon poids sur ce que je demande, comment je vois, et ainsi de suite, mais sur qui est Dieu. Parce que Dieu fait ce qui est juste, ce qui est bien. Et donc, si je pose mes regards sur Dieu, la bénédiction viendra. Probablement, peut-être pas, comme je l'imagine, mais elle viendra. Elle viendra. Pourquoi ? Parce qu'il a promis. Et donc, pour le peuple, là, qui allait connaître des tas de vicissitudes encore, ils allaient avoir des difficultés. Quand on regarde Zacharie, on s'aperçoit que toute l'œuvre a été longue, n'a pas été facile. Même plus tard, on s'aperçoit que ce peuple a commencé à se fossiliser. Et Dieu a dû envoyer Malachie pour les réveiller de nouveau. Et puis on sait que pendant les 400 ans, là, il y a eu cet engourdissement total. Et puis on arrive au moment de Jésus. C'est les pharisiens, c'est la sadducée, hein, ceux qui ajoutent, ceux qui retranchent la parole de Dieu, ceux qui ont systématisé. Alors il ne fallait pas marcher tant de mètres le jour du sabbat. Alors qu'en fait, le sabbat était là pour libérer l'homme. Vous voyez, mais Dieu va répandre sa bénédiction. Et déjà, à travers tout le silence des siècles, voilà qu'il envoie celui qui ouvre la voie devant le Seigneur. Et puis il envoie le Seigneur. Et maintenant, il envoie la vie parmi toutes les nations. Et comme on a vu la dernière fois, il ébranle les nations. Ce qui se passe n'est pas ce qu'on voit. Il y a quelque chose derrière. Et s'il y a certains événements qui se produisent dans le monde, nous savons que c'est Dieu qui les permet pour que son dessein se produise. Chose qui nous dépasse totalement. Mais nous savons que c'est Dieu qui le fait. Et donc, c'était une prophétie importante pour le peuple de cette époque-là, afin qu'ils ne posent pas leur regard sur ce bâtiment qu'ils construisaient. Et c'est une leçon importante pour nous, que nous ne posons pas les regards sur ce que nous faisons, sur ce que nous arrivons à être par nos efforts pour obtenir le plaisir, la satisfaction de Dieu. Non, c'est ce que Dieu fait en Christ. Et donc, si je veux être celui ou celle que Dieu aime, avec qui Dieu a du plaisir, ça n'est pas ce que je fais, ce que je ne fais pas. C'est ce qu'il a fait en Christ. Et donc, je vais à lui, comme un mendiant, pour recevoir de ses mains la bénédiction. Car, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. C'est le Dieu qui bénit. Et on le verra encore la prochaine fois, dans Agé. Si on lit Zacharie, on s'aperçoit que là encore, il y a une grande, grande bénédiction. Il y a des choses qui sont dites au sujet du temple qui ne peuvent pas concerner le temple. Parce que le temple de pierre ne comporte pas de grâce. Par exemple, ça c'est une petite avant-pensée en quelque sorte. Mais pourtant, quand la dernière pierre est posée dans le temple, nous dit Zacharie, c'était au cri de grâce, grâce. Donc il y a quelque chose de plus grand que le temple, plus grand que simplement notre vie. Donc c'est important pour nous de regarder cela et de ne pas poser les regards sur ce que nous faisons ou ne faisons pas, mais sur Dieu lui-même. Et ça, c'est vraiment toujours la révélation de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans cette parole et qu'il donne à nos cœurs de comprendre ces choses. Amen.